Bonjour et bienvenue dans Venu d'Orient, le podcast qui donne la parole aux voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Je suis Nawal El Amouchi, je suis journaliste pour Radio Orient et cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Aïda Amara qui est journaliste. Elle est franco-algérienne et elle a grandi avec le sentiment de n'être jamais tout à fait à sa place, trop arabe pour certains, pas assez pour d'autres. Une tension identitaire qui l'a accompagnée depuis son enfance. Aïda, elle est aussi rescapée des attentats du 13 novembre 2015 où sa vie a basculé. Elle s'est heurtée aux amalgames, au racisme et pour se relever, elle s'est raccrochée à ses racines, à ses parents, à l'Algérie, à la France et son histoire familiale. Et elle a retranscrit son parcours dans un livre avec Ma tête d'arabe, publié aux éditions Hors d'atteinte, Entretien avec Aïda Amara. Bonjour Aïda.
Bonjour Nawal.
Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour les auditeurs qui ne te connaissent pas?
Alors, je m'appelle Aïda Amara, je suis journaliste, j'ai 36 ans et j'ai sorti cette année mon premier roman avec ma tête d'arabe aux éditions Hors d'atteinte.
Pourquoi ce titre ?
Le livre, c'est mon expérience personnelle en tant que jeune femme d'origine algérienne en France. Moi, je suis née de parents algériens, mes deux parents sont nés et ont grandi en Algérie, mon père en Kabylie et ma mère à Annaba. Et donc, en fait, moi, il y a un moment où, le 13 novembre 2015, notamment, j'étais devant le petit Cambodge avec des amis quand les terroristes ont débarqué. Deux de mes amis ont été gravement blessés. Et ce moment-là, en fait, on va dire que c'est une déflagration dans ma vie et que ça fait un peu exploser toute mon identité, qui je suis, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'essaye de me raccrocher à quelque chose de tangible, de sûr. Et je me raccroche à mes parents, à mes racines. Et c'est à ce moment-là que, en fait, je me raccroche à l'histoire familiale. Et moi, mon histoire familiale, c'est l'histoire de la France et de l'Algérie. Elle se joue entre ces deux pays, jalonnée de beaucoup de traumas. Donc, que ce soit évidemment la guerre d'indépendance algérienne, mais aussi évidemment la colonisation. Mon père a grandi dans un camp de regroupement pendant la guerre. Donc, c'était des conditions de vie très difficiles. Et en fait, ce livre, c'est moi en fait, qui essaye de reprendre, de rechercher toutes les petites pièces du puzzle qui forment mon identité. Donc Paris, on en trouve à Annaba, on en trouve à Tizi Ouzou. C'est aussi, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être arabe en France. J'ai choisi ce titre parce que mon père m'a élevée dans l'idée de toujours répondre, de ne jamais laisser de la place aux racistes que je rencontrais. Et donc, il y a toujours une forme de provocation, un peu comme Aimé Césaire l'a fait avant moi, France Fanon aussi. Hein. C'est l'idée, voilà, de retourner le stigmate. Je me sers, en fait, de ce stigmate, de ce mot qu'on utilise souvent en France pour nous dévaloriser. Et je m'en sers comme d'une arme.
Et justement, dans la prise de conscience de ta double identité, est-ce qu'il y a un avant après 13 novembre ?
Je me suis rendu compte que, évidemment, qu'il y avait eu plein de petites miettes, un peu à la manière du petit pousset. Il y avait eu plein de petits moments dans ma vie qui m'avaient forgé vis-à-vis de cette double identité et vis-à-vis de ce que ça veut dire d'avoir cette double identité en France. Mais c'est vrai que le climat politique et médiatique qui s'est mis en place après les attentats, a été tellement violent que là, je m'en suis encore plus rendu compte. Et c'est à ce moment-là où, quelques jours même après les attentats, le président de la République de l'époque, François Hollande, j'en parle dans le livre, parle de déchéance de nationalité. Donc, en fait, c'est le moment où on dit aux musulmans, ou perçus comme musulmans, ou perçus comme arabes, mais en tout cas, on nous dit « vous n'êtes pas des Français comme les autres ». C'est le retour un peu des Français de papier. Et donc moi, ça me rappelle évidemment mes terreurs enfantines, quand j'avais peur que mon père se fasse expulser parce qu'il avait sa carte de séjour. On parlait beaucoup quand j'étais aussi petite, moi, les lois Pasqua, la remise en question du droit du sol. Donc en fait, je me suis rendu compte que évidemment après les attentats, ça a été bien plus violent et la prise de conscience a été claire et nette, mais je me suis rendu compte, en flashback d'une certaine manière, que ça avait toujours, d'une certaine manière, été là.
Et toi, comment tu le vis sur le plan personnel ? Toutes ces attaques, ces limites, hein, des micro-agressions racistes hein, que tu subis, comment tu le vis ?
Moi, au début, ce qu'on appelle les micro-agressions, j'avais l'impression de bien les vivre parce que j'avais l'impression, comme disait mon père, d'être armée, de savoir répondre, de toujours, en fait, me sentir supérieure moralement à la personne raciste ou ignorante en face de moi. Donc, il y avait l'idée comme si je suis forte, ça ne m'atteint pas, je sais répondre. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que ça fatigue. Et on est de plus en plus fatigué, on a de moins en moins envie de répondre, on a de moins en moins envie d'expliquer. Ça m'a fait réaliser aussi ce cheminement, que ce que je pensais être une force que j'avais en moi, pouvoir répondre, cette répartie en fait qui m'a été transmise, était quand même fatigante au quotidien.
Et comment tu fais l'équilibre entre ton récit personnel et la dimension collective qu'il y a derrière ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en lisant ton livre.
Bien sûr, en fait, moi je trouve que l'utilisation du jeu, évidemment c'est incarné, donc c'est moi, mais en fait je trouve que ça permet aussi une identification pour le lecteur et pour la lectrice. Et évidemment que dans mon expérience, énormément d'enfants d'immigrés peuvent se reconnaître parce que même si nos récits sont tous différents, et ça c'est important de le rappeler, on a des individualités, une diversité, des identités multiples, et donc c'est pas parce que quelqu'un a raconté son histoire que toutes les histoires ont été racontées, mais à côté de ça, évidemment qu'on a des choses en commun, on partage des choses, surtout évidemment le fait d'être des enfants d'immigrés en France, on partage des choses positives, mais aussi évidemment négatives. Le jeu, ce sera une multitude de jeux, ça fait un nous. C'est un peu ça que j'aime me dire. Et puis, il y a toute une partie qui se passe aussi en Algérie coloniale, où je parle de mon père, de ma grand-mère paternelle Taous. Et donc là, on est quasiment dans une forme vraiment romanesque, où j'ai récolté en fait des souvenirs familiaux et que j'ai évidemment romancé parce que je n'étais pas née en fait pendant la colonisation. Ces moments-là dans le livre, c'est des moments presque historiques, mais à l'échelle d'une famille. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, mon père, il me racontait souvent l'histoire de l'Algérie, mais il a mis du temps à me raconter son histoire. Il me disait, pourquoi je vais te raconter mon histoire ? On était des millions à vivre comme ça, à subir le joug des soldats français. Mon histoire, elle n'a rien de spécial. Et moi, justement, ce que j'avais envie de raconter, c'était pouvoir mettre un visage. Voilà, si en fait on dit 2 millions d'Algériens vivaient, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais tant de millions d'Algériens vivaient dans des camps de regroupement, on ne sait pas de qui on parle. Si on dit Slimane, 9 ans, a grandi dans un camp de regroupement, voilà ce que ça voulait dire pour lui. Je trouve que, en fait, ça, tout de suite, ça change quelque chose dans la façon de raconter l'histoire.
Et toi, c'est quoi ton rapport à l'Algérie ? Est-ce que tu avais l'habitude d'y aller en étant enfant, par exemple ?
J'ai perdu ma mère très jeune et c'est vrai que je pense que la transmission aurait été plus simple si j'avais eu ma mère. J'y allais déjà toute petite avec elle, mais j'ai grandi avec mon père et mon père, lui, n'y retournait pas. Donc, j'ai grandi sans l'Algérie. J'ai grandi avec l'Algérie, pour être plus précise, avec l'Algérie en France. Mon père était militant. J'étais tout le temps dans l'Algérie. Tout ce qui se passait en Algérie, j'étais au courant. J'étais dans les associations, dans les cantines, dans les regroupements. Mais j'avais pas de rapport au pays. Et c'est vrai qu'en grandissant, ça m'a vraiment manqué. Il y a quelques années, j'ai réussi, après 43 ans d'absence, à faire retourner, à faire revenir, comme j'ai appelé le documentaire que j'ai consacré à ce moment, à faire revenir mon père dans sa Kabylie natale. Et là, on a pu, pour la première fois, ensemble, aller dans la maison de sa naissance, voir tous les lieux emblématiques de sa jeunesse. Et depuis, je me fais un point d'honneur, évidemment, à retourner en Algérie, à garder ce lien avec ma famille, évidemment, même si le lien n'avait jamais été perdu, mais aussi avec le pays. Et donc, de découvrir aussi le pays, presque à la manière d'une touriste, c'est-à-dire pas seulement faire les arrêts dans les villes où il y a ma famille, mais vraiment découvrir le pays dans son ensemble.
Et qu'est-ce que tu as ressenti en y allant avec ton père après plus de 40 ans sans y être allée ?
Ce que j'ai ressenti quand j'y suis allée, c'est un sentiment complètement contradictoire. Quand je suis accueillie, on me dit « bienvenue chez toi ». Cette formule, elle est presque contradictoire. Comment je peux être le bienvenu si je suis chez moi ? C'est toute cette dualité dans le fait d'être une étrangère chez soi. C'est vrai que quand j'y vais, je me sens tout de suite bien. Je suis très bien accueillie. j'ai l'impression d'être le schtroumpf au pays des schtroumpfs, quoi, d'être là où il faut. Mais à la fois, je peux pas nier le fait que bah, je ne parle pas la langue, que je n'ai pas tous les codes et que j'ai deux passeports. Je suis une enfant d'immigré qui revient. Donc, c'est un statut particulier.
Et toi, ce statut particulier, tu le vis comment ? Tu le vis comme un tiraillement, comme peuvent le vivre certains, ou tu le vis pleinement ?
Je ne le vis pas comme un tiraillement parce que pour moi, c'est que du bonus. Donc, je n'ai pas, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, par exemple, qui ont passé toutes leurs vacances en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, je n'ai pas ce sentiment juste d'être chez moi dans l'avion, d'être d'ici là-bas et là-bas d'ici. Non, moi, je suis née, j'ai grandi en France, je parle que le français. Donc, c'est vrai que ce serait compliqué pour moi de me revendiquer que de l'Algérie, mais c'est le pays de mes parents et voilà, je suis binationale aussi. C'est une identité aussi que j'ai envie d'investir à ma manière. J'essaye de pas trop suranalyser ce que ça veut dire d'être là-bas. J'essaye juste en fait d'être présente, profiter de ma famille, d'apprendre à connaître ce qui est aussi mon pays à ma manière, comme je peux. Il est jamais trop tard. Il y a certaines personnes qui ressentiront sûrement jamais le besoin et d'autres si. Moi, j'ai découvert le pays assez tard. Ça vient très vite parce qu'il y a, un vrai sentiment aussi, d'appartenance commune. Il n'y a pas. Moi, j'ai pas vécu ce rejet, l'enfant d'immigré rejeté. Non, pas du tout. Au contraire. Et donc, c'est vrai que même pour la langue. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai deux langues maternelles, parce que ma mère est arabophone et mon père, sa langue maternelle, c'est le kabyle. J'ai deux langues à apprendre. Donc voilà, j'essaye de m'y mettre, mais c'est vrai que c'est pas très facile à 36 ans d'apprendre des langues si compliquées. Par exemple, le kabyle, j'ai trouvé ça très compliqué. Essayer d'apprendre le darija aussi, bien sûr, pour pouvoir être plus autonome sur place et pas se cacher toujours derrière ma famille quand on parle en arabe.
Est-ce que c'est quelque chose que tu constates dans ton entourage proche, peut-être de personnes qui te ressemblent, qui, comme toi, sont franco-algériens, franco-maghrébins, peu importe, à un moment donné où il y a cette volonté de vouloir aussi se reconnecter avec le pays de ses parents, avec son pays d'origine ?
Oui, évidemment, cette démarche, elle est personnelle, mais je l'ai rencontrée chez énormément de personnes. Déjà, on vient m'en parler après le livre, après le documentaire, mais même des amis hein, qui, pour une raison X ou Y, ont eu un moment une déconnexion avec ce pays. En fait, voilà, il y a plein d'histoires personnelles, familiales, qui font qu'à un moment, le lien peut se distendre avec le pays d'origine. Et c'est souvent les filles aussi, il faut le dire, mais voilà, c'est souvent les enfants qui font le premier pas pour reconnecter leurs parents, quand il y a eu une rupture évidemment, mais leurs parents avec leur pays d'origine. Et ça, je trouve que c'est super, ça peut être qu'une richesse. Sans romantiser et faire du pays d'origine un Eldorado, en faire une sorte de fantasme, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment juste une démarche personnelle liée au fait qu'on a un lien fort évidemment avec le pays de nos parents.
Pour revenir justement sur ton père, qui n'était pas allé depuis plus de 40 ans, c'est toi qui l'as incité aussi à le faire. Pourquoi ?
Moi, j'ai commencé à interroger mon père sur son enfance, sur son parcours migratoire de manière générale, dans un podcast, Transmission. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de ces histoires, qui, il faut le rappeler, pour beaucoup se perdent, parce qu'elles n'ont pas été écrites, sauf que l'oralité, ça se perd. Donc moi, j'étais un peu obsédée par le fait de figer, d'enregistrer, d'écrire ces récits-là pour pas que les générations d'après, et puis même moi, hein, pour pas que ces récits soient perdus. Et en fait, à un moment donné, la fin de ce cheminement pour moi, c'était évidemment de retourner là où tout a commencé. Et c'était là où tout a commencé pour mon père, c'était en Algérie. Lui, en fait, il était très engagé en France pour l'Algérie, mais il avait un peu tiré un trait pour plusieurs raisons qui lui sont personnelles, mais sur le fait de retourner au pays, parce que ses frères notamment faisaient des allers-retours, donc on ne perdait pas le lien avec la famille. Et en fait, il me disait tout le temps, la seule personne qui peut me faire revenir en Algérie, c'est toi, ma fille, si tu veux que je te montre où j'ai grandi. Et donc, je l'ai pris au mot et on y est retourné.
Tu parlais de laisser des traces. Est-ce que derrière ce livre, ce podcast aussi, Transmission, il n'y a pas un devoir de mémoire aussi derrière ?
Ce devoir de mémoire, je ne le prends pas comme ça. Je ne le prends pas forcément comme un devoir. Moi, je le voyais comme un besoin. Il y avait l'idée que moi, j'ai dû faire des enquêtes. Voilà, je suis journaliste, c'était presque des enquêtes pour en fait recoller les morceaux, par exemple, de la vie de ma grand-mère Taous. Je devais aller voir cette cousine pour qu'elle me raconte cette histoire-là parce qu'elle l'a bien connue. Ensuite, aller vérifier auprès de mon autre cousin. En fait, toute ma famille, là pour le coup c'est paternel, a été mise à contribution pour en fait qu'on puisse avoir le récit de vie de cette femme Taous, ma grand-mère. Donc en fait, je voulais qu'il y ait des traces de ces gens-là, humblement à ma petite échelle, mais c'est des personnes qu'on a essayé d'effacer de l'histoire en France. Je suis allée à l'école en France, la colonisation, c'est une demi-page. Et c'est jamais du point de vue des Algériens, des Algériennes. Donc c'était important pour moi de les ancrer en fait dans la petite histoire, la grande histoire. Et que voilà, si les générations d'après se demandent d'où ils viennent, ben, ils sauront que voilà, il y avait un jour dans un village kabyle une Taous Amara qui aidait les maquisards pour une Algérie libre.
Et est-ce que ces traces, t'aimerais peut-être plus tard les explorer autrement via d'autres formats ?
J'ai déjà utilisé pas mal de formats. J'ai commencé par le podcast. Donc, l'idée de la voix, elle était très importante parce que l'oralité, c'est quelque chose de très important, bah, comme je le disais dans ma famille. Le documentaire, pour moi, c'était important de qu'on voit l'endroit où on allait. Et évidemment, ça se termine par le livre. Moi, voilà, j'ai grandi avec l'amour du livre et sans en faire un objet sacré, c'était quand même, voilà, on raconte pas n'importe quoi quand on écrit un livre, et on travaille dessus et donc forcément, c'est plus laborieux, ça prend plus de temps que un podcast, par exemple.
Et ce livre, Ma tête d'arabe, pour qui tu l'as écrit ? Pour toi ou pour les autres ?
On me demande souvent si le livre, c'est un objet thérapeutique. Pour moi, la thérapie, ça a été la thérapie. J'aurais pas pu écrire si j'étais pas allée en thérapie pour juste faire de la place, en fait, pour que j'ai des choses à raconter. Et après, le livre, je l'ai écrit d'abord pour moi. Mais évidemment, quand on est publié, on écrit pour un lecteur et pour une lectrice. Et moi, ce livre, pour moi, il s'appelle « Avec ma tête d'arabe », évidemment. Mais moi, je pars du principe que nos histoires sont universelles, dans le bon sens du terme et pas dans le sens « on ne voit pas les couleurs ». Pour moi, toutes les personnes qui ont envie de lire un livre sur voilà, l'histoire d'une jeune femme, la relation familiale entre un père et sa fille, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Il s'avère que mon père est algérien, mais peut-être que si vous avez un père sicilien ou, je sais pas, libanais, peut-être que ça vous parlera aussi, et tant mieux.
J'imagine que tu as déjà eu des retours. Est-ce qu'il y a un retour qui t'a peut-être plus marqué qu'un autre ?
Oui, évidemment. Je pense que c'est le retour de mon père. Parce que c'est une grande partie du livre, évidemment. Et oui, quand mon père me dit que j'ai fait du bon boulot et qu'il est fier du travail accompli, en sachant que mon père, pour ceux qui liront le livre, est quand même très exigeant et ne me laisse rien passer, s'il avait trouvé le livre nul, il l'aurait dit. C'est quand même voilà, très important pour moi. Je pense que, évidemment, c'est touchant quand les gens me disent qu'ils se sont reconnus, ou justement qu'ils ont découvert des choses, c'est toujours touchant. Et évidemment, quand c'est les proches, ça touche à quelque chose de particulier.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Bah, merci à toi.
Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Venu d'Orient.